Europe 1, il est 7h.
Il faut penser à l'insuffisance cardiaque. Même chez les patients jeunes, même chez les patients de moins de 50 ans, on croit toujours que l'insuffisance cardiaque ne concerne que le sujet âgé, c'est faux.
Plus d'un million de malades en France, mais le suivi de l'insuffisance cardiaque laisse encore à désirer. Information Europe 1 et conseils concrets sur les symptômes qui doivent alerter.
Une candidature dissidente à Paris, Cédric Villani, doit s'exprimer aujourd'hui pour les municipales.
Il a été nommé hier Jean-Paul Delevoye au gouvernement. Comment réagissent les syndicats? Notre invité en direct dans ce journal de 7h, le secrétaire général de l'UNSA.
Une motion pour le report du Brexit adoptée hier par le Parlement britannique. Les opposants à la sortie de l'Union jubilent.
Je suis heureuse, le Brexit est une violence de notre démocratie et nous devons l'empêcher.
Et puis l'élimination de Roger Federer cette nuit à l'US Open, le Suisse diminué face au Bulgare Dimitrov et une élimination en 5-7.
Oui, j'ai essayé plein de choses, mais blessé ou pas blessé, ou douleur ou pas douleur, j'aurais fait la même chose. J'ai essayé, voilà.
Il est 7h01, excellent réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Sur Europe 1, le journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Le diagnostic est clair, l'insuffisance cardiaque est mal dépistée en France.
C'est ce que conclut cette étude qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Les cardiologues français réunis en sommet européen à Paris pointent une prise en charge chaotique des patients. Le détail de cette enquête avec Mélanie Gomez.
Le plus inquiétant dans cette enquête, c'est que quasi la moitié des patients hospitalisés en urgence à cause d'une insuffisance cardiaque avaient en réalité des symptômes depuis plusieurs semaines. Et même pire, pour un tiers d'entre eux, les signes que leur muscle cardiaque fonctionnait mal, avait commencé depuis plus de 2 mois. Le problème, c'est qu'en France, que ce soit du côté des patients ou même parfois des médecins, on connaît peu ou pas du tout les symptômes qui doivent alerter. Pourtant, il n'y en a que 4 que les médecins ont regroupés sous l'acronyme EPOF, précise le docteur Florence Beauvais, cardiologue à l'hôpital Lariboisière à Paris.
E pour essoufflement, P pour prise de poids rapide, O pour œdème, c'est-à-dire un gonflement des jambes, et F pour fatigue anormale. Si on a une association de ces 4 signes, il est clair qu'il faut penser à l'insuffisance cardiaque. Même chez les patients jeunes, même chez les patients de moins de 50 ans, on croit toujours que l'insuffisance cardiaque ne concerne que le sujet âgé. C'est faux. J'en vois tous les jours.
Enfin, ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que même après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, la prise en charge médicale laisse à désirer, alors que 100% des malades devraient être admis en réadaptation cardiaque. Des centres où on leur apprend par exemple comment faire du sport avec cette pathologie ou quoi manger, eh bien seul 1 patient sur 10 en bénéficie en France.
Les informations de Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1.
Il est 7h03.
La fin d'un vrai faux suspense et des dissensions qui vont éclater en plein jour au sein de La République En Marche. Cédric Villani doit annoncer ce soir sa candidature au municipal à Paris.
Le député de l'Essonne qui, malgré son engagement, va donc défier le candidat officiel Benjamin Griveaux pour Europe 1. Aurélie Herbemont.
Un moment fondateur, voilà comment l'équipe de Cédric Villani assure la promotion de la déclaration de ce soir. Fondateur pour Cédric Villani, ravageur pour La République En Marche. Le mathématicien dévoilera les grands axes de son projet. Une centaine de partisans sont attendus. Hasard du calendrier, La République En Marche sera au même moment en train de plancher sur de nouvelles investitures pour les municipales. Processus que n'a pas respecté Cédric Villani. Le cas parisien s'invitera donc dans les discussions. Mais on attend de l'entendre de sa bouche pour décider comment réagir, glisse-t-on au parti. Réaction immédiate ou pas, exclusion ou pas. Benjamin Griveaux, lui, n'est pas favorable à une sanction, mais il ripostera dès demain matin. Ses lieutenants seront aussi mobilisés avec un dosage à trouver. Ne pas laisser passer cette dissidence et en même temps ne pas en faire trop pour éviter de donner l'impression que c'est une catastrophe.
Les enjeux de la candidature de Cédric Villani avec Aurélie Herbemont.
Et j'invite nos auditeurs à se rendre sur europe1.fr pour ce matin et réécouter notre invité inattendu. C'est un ancien élève de Cédric Villani dans sa première carrière de mathématicien, grand mathématicien, forcément un peu solitaire, mais qui s'est joué collectif, nous disait son ancien élève, grand mathématicien qui faisait cours en chaussettes aussi. C'est l'invité inattendu, c'est tous les matins à 6h20. Pour aujourd'hui, vous allez sur europe1.fr, puis demain, vous vous levez un peu plus tôt.
Et au-delà de cette déclaration de Cédric Villani, hein, ce soir, l'autre rendez-vous politique de ce mercredi, c'est le séminaire gouvernemental convoqué par Emmanuel Macron avec les 2 nouveaux venus nommés hier.
Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, et Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, l'ancien ministre chiracien, après avoir porté les pistes de la réforme, eh bien il va maintenant gérer la concertation, notamment avec les partenaires sociaux.
Bonjour Laurent Escure.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat UNSA. Vous, vous serez reçu vendredi, justement, à Matignon pour évoquer cette réforme des retraites. Jean-Paul Delevoye, pour vous, maintenant qu'il est au gouvernement, c'est le bon interlocuteur ?
C'est une assez bonne nouvelle parce que d'abord, c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier puisqu'il le travaille depuis plusieurs mois. Et c'est quelqu'un avec qui on avait apprécié de travailler parce qu'au-delà de sa capacité d'écoute, de sa capacité technique, c'est quelqu'un qui sait aussi entendre. Donc c'est quelqu'un qui est proche du dialogue social. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça ne dit rien de ce qui aboutira finalement dans ce projet de réforme. Mais en tout cas, pour la méthode, c'est bien.
Eh bien justement, Jean-Paul Delevoye, on le sait, il avait plaidé pour le fameux âge pivot de départ à 64 ans. Sauf qu'Emmanuel Macron dit préférer une réforme basée sur la durée de cotisation. Maintenant qu'il est entré au gouvernement, vous pensez que Jean-Paul Delevoye garde la même liberté sur le dossier ?
On verra bien. En tout cas, désormais, en effet, c'est l'exécutif, c'est le gouvernement et peut-être même le président de la République qui, au bout du compte, poseront des arbitrages. Mais notre interlocuteur est un interlocuteur de qualité. C'est déjà une bonne chose.
Voilà la satisfaction donc de l'UNSA, dont vous êtes le secrétaire général Laurent Escure. Merci d'avoir été en direct avec nous dans ce journal de 7h.
Europe 1.
Une ambiance de match de foot. Hier soir, aux abords du Parlement britannique, les députés qui défient Boris Johnson sur le Brexit, vous les entendrez dans un instant sur Europe 1.
Il est 7h07. Europe 1, il est 7h09. La suite du journal, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Désaveu hier à Westminster pour Boris Johnson. Le Parlement a adopté une motion en faveur d'un report du Brexit. Et ce, avec le soutien de 21 députés conservateurs, des frondeurs. Un vote que Pierre Herbulot a suivi aux côtés de centaines de manifestants pro-européens aux abords du Parlement.
Après une dizaine d'heures d'attente devant les grilles du palais de Westminster... L'explosion de joie au moment des résultats est à la hauteur du soulagement et de l'espoir de ces centaines de militants.
Je suis heureuse, le Brexit est une violation de notre démocratie et nous devons l'empêcher.
Cette victoire est la bienvenue, on était tous nerveux ici. Mais oui, on a eu les votes des frondeurs qui nous manquaient, pas autant qu'espéré, mais juste assez.
Enveloppé dans un drapeau européen, Roy aussi a une pensée pour les frondeurs. De bons députés qui mettent leur pays avant leur parti, dit-il. Pas très loin dans la foule, Sophie, cette Française, habite Londres depuis 5 ans.
C'est beau comme moment.
J'ai vu que vous êtes pris dans les bras au moment des résultats.
Ouais, bah oui, on écoutait la BBC en attendant et juste de voir... Oh bah Dieu merci.
Ça ressemble à une ambiance de match de foot. Hein.
Oui, vraiment. Non, bah c'est sûr. Bah voilà, d'ailleurs, we are the champion.
Et comme dans les matchs de foot, quand il y a un champion, il y a un perdant, cette militante pro-Brexit rentre chez elle la mine sombre et souffle au passage.
It's only one battle in the war.
Ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Londres, Pierre Herbulot.
Et d'ailleurs, une nouvelle bataille est prévue aujourd'hui, un nouveau vote sur le report du Brexit. Boris Johnson a déjà prévenu, si la sortie de l'UE est repoussée, il tentera de convoquer des élections législatives. La décision ne passe pas inaperçue. Le géant américain Walmart, numéro 1 mondial de la grande distribution, annonce mettre fin à la vente de munitions pour armes semi-automatiques, alors qu'une nouvelle fusillade a fait 7 morts le week-end dernier au Texas.
Europe 1, il est 7h11.
Voilà qui fait écarquiller les yeux. La France compte 67 millions de Français, ça vous le savez. Mais pour la Sécu, nous serions 84 millions.
Des chiffres issus du pré-rapport de deux parlementaires qui estiment que ces 84 millions de cartes vitales en circulation ouvrent la voie à des fraudes massives, comme l'explique l'une des co-rédactrices du rapport, la sénatrice UDI, Nathalie Goulet.
Exemple, vous êtes un étudiant Erasmus, vous avez le droit à une carte vitale, des soins, etc. C'est normal, vous rentrez dans votre pays. Vous pouvez très bien passer la carte à un copain. Si vous ne prévenez pas les services, votre carte demeure active. Bon. Si vous êtes un Français binational et que vous mourrez dans votre pays d'origine, c'est très dommage pour vous. Mais si personne ne prévient les caisses françaises, votre carte reste active et tout ce qui va avec aussi. Et vous pouvez très bien imaginer qu'un de vos cousins utilise votre carte pour des soins, des prestations, etc. Si vous êtes un étranger en France et que vous n'avez plus de droit au maintien sur le territoire, il n'y a pas non plus de lien entre le service des étrangers et les services sociaux pour désactiver votre carte vitale. Voilà, simplement parce qu'on est sur du déclaratif et que la tuyauterie ne se fait pas entre les services. Donc il faut vraiment qu'on fasse le clair.
Et Nathalie Goulet proposait notamment une limitation à 2 ans de la durée de validité des cartes vitales. Le chiffre a été dévoilé hier soir. Bercy va supprimer près de 5800 postes dans les deux prochaines années.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage écho tous les matins dans ce journal de 7h avec cette nouvelle annonce. Bercy veut continuer à se poser en modèle.
C'est en effet un des rares endroits de l'administration où la réduction des effectifs n'a pas été mise entre parenthèses par le gouvernement. Bercy veut apporter la preuve qu'on peut réduire le personnel et faire des économies sans dégrader le service public, pour peu qu'on s'organise un peu différemment. Exemple, les douanes, qui collectent aujourd'hui une quinzaine de taxes, vont transférer cette mission au fisc, dont c'est le métier après tout. Bilan, moins de personnel et un travail plus efficace.
Et au final, Nicolas, au sein de l'État, il y a pratiquement plus que Bercy pour réduire ses effectifs.
Ben voilà, sur 15 000 suppressions d'emplois prévues au sein de l'État sur le quinquennat d'Emmanuel Macron, 10 000 concernent Bercy, les deux tiers. Et au fond, c'est la seule administration qui se restructure vraiment. Prenez l'exemple de l'impôt sur le revenu. La déclaration pré-remplie et puis le prélèvement à la source permettent de réduire les effectifs en charge du recouvrement de ces impôts. De même, la nouvelle carte des trésoreries sur les territoires ou encore la numérisation se traduisent par des économies de personnel comme ça se fait dans le privé. La leçon au fond de Bercy aux autres administrations, c'est que la réforme de l'État est possible. Ce qui est dommage, c'est de la limiter à la forteresse de Bercy.
Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, merci. 5800 suppressions de postes, c'est trop pour les syndicats qui entendent poursuivre leur mobilisation avec un premier rendez-vous dès le 16 septembre.
C'était l'édito Écho avec la Caisse d'Épargne, 3000 experts au service des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
Europe 1. C'est la surprise de la nuit à l'US Open de tennis. Roger Federer éliminé en quart de finale face au 78e mondial. On en parle dans un instant.
Europe 1, il est 7h14. Il est 7h16, le journal se poursuit sur Europe 1, c'est le rappel des grands titres de l'actualité. Mathieu Béliard.
Le nouveau bilan de Dorian aux Bahamas, 7 morts. Désormais, plusieurs îles de l'archipel ravagées selon l'ONU. Au moins 61 000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire. Ils sont désormais 37 et c'est avec les nouveaux venus, Jean-Paul Delevoye pour les retraites et Jean-Baptiste Djebbari pour les transports, que le gouvernement se réunit en séminaire aujourd'hui. Une amende de 4 millions d'euros pour Amazon. Décision du tribunal de commerce de Paris saisie par la répression des fraudes. Amazon accusé d'user de clauses contractuelles déséquilibré envers les entreprises qui utilisent la plateforme.
La météo, une petite perturbation pluvieuse va traverser le pays en arrivant par le nord-ouest. Elle va s'enfoncer lentement vers le sud du pays. Le ciel va rester dégagé en Occitanie sur les bords de la Méditerranée dans la vallée du Rhône. Les températures cet après-midi en moyenne 25 à 30 degrés. Sur Europe 1, la suite du journal, Mathieu Béliard, Marion Calais.
La déconvenue pour Roger Federer à l'US Open tout à l'heure, défaite face au Bulgare Grigor Dimitrov en 5-7. 75 places séparent les deux joueurs au classement mondial, mais le Suisse l'a reconnu, il n'était pas au mieux.
Oui, j'ai essayé plein de choses, mais blessé ou pas blessé, ou douleur ou pas douleur, j'aurais fait la même chose. J'aurais encore aimé de jouer plus agressif, honnêtement, parce que quelquefois je me suis retrouvé trop loin derrière les lignes, sans vouloir vraiment. Tout d'un coup, j'étais là. J'ai oublié de rester vers la ligne, mais bon, ça arrive et j'ai essayé, voilà.
Voilà, Roger Federer sorti en quart de finale, un quart que doit disputer aujourd'hui Gaël Monfils. Il sera opposé à l'Italien Berrettini.
Il est l'un des peintres les plus chers au monde, l'Anglais Francis Bacon, au cœur d'une grande exposition à partir de mercredi prochain au Centre Pompidou à Paris.
Une soixantaine de toiles venues du monde entier y seront rassemblées. Diane Chenouda a suivi pour Europe 1 leur arrivée et leur accrochage.
Dans les caisses isothermes, chaque Bacon vaut de l'or. Les tableaux viennent d'Australie, États-Unis, Suisse, Angleterre, de partout. Sous l'œil du commissaire Didier Ottinger.
Il y en a un particulier tableau qui vient de Madrid. Le prêteur, un musée madrilène, a demandé à ce que l'œuvre soit escortée pendant toute la durée du transport.
Une fois la toile sortie de caisse, la restauratrice Claire Boal va vérifier à la lampe frontale et lumière rasante que le tableau n'a pas été abîmé.
On vérifie que la peinture ne s'est pas décollée de son support et aussi qu'il n'y a pas eu de frottement, notamment là où on a des cadres dorés donc qui sont très fragiles.
Vous êtes prêts ?
Vient l'accrochage ici d'un triptyque qui vient de Bâle, accompagné par le convoyeur suisse Olivier Vic, du début à la fin.
On ne veut pas risquer qu'il y ait un accident en route. On veut surveiller que les caisses sont manipulées soigneusement.
Lève un peu plus.
On ne parle pas de l'assurance, on ne parle pas des coûts. C'est hors prix, c'est vraiment très précieux.
Les assurances représentent au moins 30% du budget global, selon le Centre Pompidou qui a obtenu une aide de l'État pour réduire les frais. Car les toiles de Bacon vont prendre encore plus de valeur pendant l'exposition.
Et l'exposition Bacon, c'est du 11 septembre.
On vérifie que la peinture ne s'est pas décrochée de son support. Vous imaginez le stress? Pardon les gars, j'ai mis un bout de scotch sur le tableau.
Le transport s'est mal passé. Exposition Bacon jusqu'au 20 janvier prochain à Paris.
Merci beaucoup, c'était le journal avec Marion Calais. Prochain journal, 7h30 avec Hélène Zélani, on passe à l'innovation.